Lizzie présente Née contente à Oraibi de Bérengère Cournutte, lu par Samantha Markovitch. Chapitre 1. Je suis née contente à Oraibi, ancien village Hopi, perché sur un haut plateau d'Arizona. Je dis « née contente » car à l'âge de 20 jours, quand les femmes m'ont présenté au soleil levant, il paraît que j'ai poussé des cris qui ressemblaient plus à des éclats de rire qu'aux pleurs ordinaires des enfants. Après la période rituelle durant laquelle j'étais restée dans le noir, encore en lien avec le monde d'en dessous, j'étais sans doute heureuse de découvrir enfin la lumière du quatrième monde, celui dans lequel j'allais devoir trouver ma route, en harmonie avec le grand projet de vie de notre créateur, le soleil-dieu, Taïyowa. On m'a raconté que pour me faire fille de son clan, et parce que je lui avais pissé dessus la première fois qu'elle m'a prise dans ses bras, une tante m'a d'abord nommée Honahupahahu, ours qui se répand comme une fontaine. Puis, comme ce jour-là je riais à gorge déployée, une autre m'a également baptisée Tayatitahawa, celle qui salue le soleil en riant. Enfin, parce que je suis sortie du ventre de ma mère avec les pieds tordus, une troisième femme du clan de mon père m'a encore nommée Tihukukuha, pied qui danse entre deux feux, façon habile de conjurer le sort et de consoler ma mère contrariée par ce léger handicap. Toutes m'ont ensuite souhaité de vivre longtemps en bonne santé et de mourir sans souffrance dans mon sommeil, avant de me ramener chez nous, où toute ma famille était rassemblée pour fêter mon arrivée à la lumière. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai cessé de pisser sur les gens et, ficelée sur mon berceau de roseau, comme le sont tous les nourrissons, moi plus encore que les autres à cause de mes jambes mal formées, j'ai ri avant que de pouvoir danser. Voilà pourquoi je suis restée Tayatitahawa. Mes pieds fous ont longtemps fait de moi une enfant sage, très différente du garçon qui était venu à mes parents auparavant. À ma naissance, mon frère déployait depuis plusieurs années déjà son énergie de chien de prairie à travers le village. Il paraît qu'avant de savoir marcher, il rampait en dehors de la maison, accroché aux fesses des dindes sauvages. Plusieurs fois, celle-ci l'avait mené jusqu'à la couverture de notre voisine. Ce qui lui valait depuis le surnom de Manquatsi, celui qui sait s'y prendre avec les filles. Un jour, ma mère l'aurait encore récupéré au bord de la Mesa, prêt à basculer dans le vide, et vers 3 ans, il grimpait toutes les échelles à sa portée. Son jeu favori était alors de libérer les faucons captifs sur les toits de nos voisins. Si bien qu'un jour, l'un d'eux, fâché d'avoir perdu son frère ailé par la faute du mien, a appelé Soyoko, l'esprit qui châtie les enfants, en les emmenant loin du village. Ma mère a dû parlementer longuement avec Soyoko et lui donner un plein sac de maïs pour que mon frère puisse rester chez nous. Mon père n'a pas fait preuve de la même indulgence lorsque, quelque temps plus tard, on l'a retrouvé en train de massacrer un serpent. « Les serpents sont nos frères », a-t-il expliqué à ma mère. « Leur faire du mal, c'est faire du mal à l'ensemble de notre peuple. » Si personne de ton clan ne châtie notre fils lorsqu'il s'écarte du bon chemin, je dois le faire. Puis, il a allumé un feu de cèdre vert et placé mon frère au-dessus, dans la fumée âpre et toxique. De ce jour, mon frère a retenu 2 leçons. Respecter les serpents et faire ses expériences le plus loin possible du regard de notre père. Une autre chose que je sais parce qu'une sœur de ma mère me l'a raconté, c'est qu'au jour de ma naissance, Manquatsi a poussé un cri, un grand, long et beau cri. Les douleurs avaient commencé depuis le milieu de la matinée, les fenêtres étaient occultées, ma mère installée sur un lit de sable chaud. Tout se présentait normalement, si ce n'est qu'en fin d'après-midi, alors que son ventre se durcissait régulièrement comme une courge gorgée d'eau, aucune fente assez large ne se dessinait pour laisser passer ma tête. Les femmes du clan commençaient à craindre une demi-naissance. L'enfant est expulsé du fond des entrailles, mais refuse de passer la dernière porte. Si l'envaginement se prolonge, la vie de la mère est en danger. Tour à tour, elle conseillait donc à la mienne de s'asseoir, de s'accroupir, de se coucher, afin de me forcer à sortir, mais rien n'y faisait. Je restais hors de vue. Devant cet entêtement, elles ont fini par faire brûler de la sauge blanche, au cas où un esprit mal intentionné, caché quelque part dans la maison, ait eu pour dessein de m'empêcher de naître. Cela resta sans effet. À la fin du jour, ma mère était considérablement affaiblie. Mon père, que les femmes n'avaient pas encore autorisé à entrer, attendait devant la maison depuis le début, écoutant les cris déchirants qui lui parvenaient de l'intérieur. Quand les cris se sont transformés en soupirs inquiétants, il a exigé de voir sa femme. Il est entré dans la pièce obscure, a cherché ma mère à tâtons, puis, la saisissant à la taille, l'a serrée, espérant ainsi faire céder le gros ventre. Je ne sortais toujours pas. Le seul espoir de sauver la situation était désormais de faire appel à un homme médecine. Ma mère réclamait celui du clan du Blaireau qui habitait Bakahui. En partant sur le champ, mon père avait une chance d'être revenu avec lui avant la nuit, mais il fallait que quelqu'un continue de soutenir ma mère. On est allé chercher mon frère. En entrant dans la pièce, au lieu de faire ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire venir se placer derrière ma mère, Man Kwatsi a poussé un hurlement terrible. Quelque chose que personne n'avait jamais entendu. Un cri rauque qui semblait sortir d'ailleurs que du ventre d'un petit garçon. Tout le monde s'est trouvé pétrifié, sauf moi, qui ai pris ce cri pour un appel. Ma résistance était vaincue. J'ai accepté de naître au cœur de ma famille réunie. De ce jour, mon frère a cessé d'être considéré comme un enfant. Son initiation a eu lieu la saison suivante et ma mère n'a plus été autorisée à le couver comme elle l'avait fait jusqu'à présent. Il appartenait désormais au monde des hommes et devait accomplir sa part de travail. Cet été-là, nos oncles lui ont confié la surveillance de 6 pêchers et mon père, la garde partielle de notre troupeau. Il avait également le droit de se rendre à la Kiua avec les anciens. Mais mon frère a peu profité de ce privilège, lui préférant l'indépendance que lui conféraient soudain les travaux au grand air. Au début, ma mère a été peinée de le voir ainsi s'éloigner. Mais bien vite, les soins qu'exigeait mon jeune âge et mes jambes torses l'ont distraite du vide laissé par son garçon turbulent. Un nouveau cycle s'était installé dans notre maison où j'occupais désormais pleinement la place de dernière-née. Pourtant, je me suis toujours demandé si le cri de Man Kwatsi avait bien été le fait d'un adulte ou simplement l'expression d'une peur, d'une joie, d'une jalousie d'enfant. Avait-il été heureux ou terrifié de mon arrivée? Ce dont je peux témoigner, c'est que malgré sa réputation de grand faiseur de bêtises, mon frère n'a jamais attenté à mes jours. J'étais sa petite sœur Gaga, il était mon grand Hua Hua, nous nous entendions aussi bien que notre différence d'âge le permettait. J'ai même le sentiment confus qu'à sa manière, Man Kwatsi a veillé sur mes premières années avec l'attention discrète d'une bête sauvage. Je me souviens par exemple de cette fois où nos parents étaient engagés dans une forte querelle. Mon père tonnait fort contre ma mère qui ne se laissait pas faire. Quand mon frère s'est aperçu que je pleurais seul dans un coin, il est sorti en hâte de la maison. Quelques minutes plus tard, il revenait me jeter quelque chose à la figure. J'ai d'abord cru que c'était une motte de terre, mais en m'en emparant à pleine main pour m'en débarrasser, j'ai découvert un chat, un petit chat noir tout crotté. Il était chétif, il avait les yeux qui coulaient, mais il était bien chaud. Mon frère l'avait entendu miauler le matin même au creux d'un rocher, à la lisière du village, et il me l'amenait pour couvrir les cris de nos parents.